à tous et bienvenue dans La Note Originale, l'émission consacrée aux musiques du cinéma. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission en compagnie de mes fidèles chroniqueurs, Anaïs et Henri. Ça va ?
Ça va et toi ?
Hello !
Salut ! Alors, Paul n'est pas là avec nous aujourd'hui, malheureusement, mais il sera bien sûr en duplex, quelque part, en fait, il va nous envoyer sa chronique à chaque fois, ses anecdotes sur le film.
Alors, Paul, c'est notre Tintin, en fait.
Voilà.
C'est notre reporter. Là, il est à l'autre bout du monde en train
Exactement, en train de pêcher des anecdotes.
De rien foutre.
Voilà.
Storer la pilule.
Donc, du coup, on retrouvera Paul pour les anecdotes, Henri pour l'analyse de la BO et Anaïs dans quelques instants avec une synopsis et une biographie du compositeur. Alors, aujourd'hui, on va parler de Candyman. Réalisé par Bernard Rose et composé en 1992 exactement et composé par Philippe Glass. Alors bien sûr avant d'en parler de nos différents avis sur la BO comme sur le film, on va bien sûr en écouter un premier extrait. Alors on va choisir le thème d'ouverture du film qui s'appelle Music Box. Vous allez voir, c'est assez particulier. Puis Philippe Glass, on va en parler après parce que ça vaut vraiment le coup d'en parler, ça fait longtemps qu'on voulait en parler aussi également. Donc, la légende urbaine du Candyman ne fait que commencer. C'est tout de suite sur RPL Radio, Candyman, composé par Philippe Glass. Nous sommes de retour, bien sûr, sur RPL Radio 99.0 FM et DAB+. Dans la note originale, vous venez d'écouter ce premier extrait musical du film Candyman, composé par Philippe Glass. Philippe Laglace, ouais. Philippe Vert.
Philippe Vert.
Voilà. On passe sans plus attendre à un synopsis d'Anaïs. Pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui voudraient s'en souvenir, en tout cas, voilà. Oui. On remet un peu de contexte dans tout ça avant d'en parler. Bien sûr, je t'en prie, Anaïs.
Hélène Lyle est étudiante à l'université d'Illinois à Chicago. Avec son amie Bernadette, elle rédige une thèse sur les légendes urbaines et les croyances populaires. Au cours de ses investigations, elle est interpellée par une histoire récurrente, celle du mythique Candyman qui terrorise les habitants du quartier défavorisé de Cabrini Green depuis des décennies, assassinant des femmes et des enfants principalement. La légende urbaine dit que si l'on prononce son nom 5 fois de suite devant un miroir, ce dernier apparaît subitement derrière vous et vous fait subir les plus atroces supplices. Hélène, sentant qu'elle tient là un sujet en or, convainc Bernadette d'aller enquêter sur les lieux mêmes des crimes, dans la cité sordide de Cabrini Green, un ghetto noir livré aux gangs et à la misère.
Alors oui, Candyman, hein, qui est culte hein, maintenant pour énormément de gens. Moi, je me rappelle, c'était un des films au vidéoclub qui faisait peur. Hein, quand on se promenait, on voyait Candyman, et puis même le film en lui-même, hein, l'avoir vu assez jeune, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Sorti tout droit de l'univers de Clive Barker, qui est réputé pour ses livres et œuvres fantastiques complètement... hors norme et on va dire gore aussi, effrayante.
Ouais, et du coup, ce qui est pas mal, c'est que ça traite des malaises sociaux.
Bien sûr, le film parle aussi des malaises sociaux, de tout un rapport aussi aux légendes urbaines, comme en fait pas mal de choses se mettent dans la tête des gens, des a priori et du racisme aussi, on en parle aussi. Voilà.
Il y a plusieurs thématiques hein, qui sont traitées. Déjà, la nouvelle de base, elle, s'attachait effectivement, comme tu viens de le dire, à qu'est-ce qui constitue une légende urbaine, qu'est-ce qui fait qu'elle devient en fait une légende urbaine, ouais. Et sur la passation orale, en fait, tu vois, de ça, et notamment de la violence et tout ça. Mais d'après ce que j'avais relu et redécouvert en fait par la suite, parce que moi j'arrive pas à retrouver à prix décent le Book of Blood numéro 5 dans lequel il y a la nouvelle en fait de ce livre là. Et Bernard Rose du coup lui va y ajouter, en plus de beaucoup plus développer cet aspect justement étude de qu'est-ce qui fait une légende urbaine, qu'est-ce qui fait se prolonger justement le côté horrifique, la violence et tout ça. Il va y ajouter une seconde lecture beaucoup plus urbaine, beaucoup plus sociétale, notamment sur le clivage en fait qu'il y a entre les populations plus défavorisées et les populations plus favorisées, tout simplement. Notamment en fait en créant pendant tout le film, vraiment en termes de langage cinématographique, des effets de miroir en fait entre les deux, avec des architectures qui se répètent dans les appartements, dans tout le moment où en fait t'as ce côté pauvre et tout ce que tu veux. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le film a vraiment été tourné, parce que je crois que Cabrini est un véritable quartier, c'est pas un truc fictif, c'est un véritable quartier du côté de Détroit, et que le tournage a été, si je me souviens bien, tourné mais constamment entouré, justement, en sachant que t'avais du gang. Si je me souviens bien, il y a un délire genre t'as certains camions dans lesquels il y avait le matos, etc., qui s'étaient pris des impacts de balles à certains moments. Donc visiblement c'était très chaud. Et le film a un véritable pouvoir de fascination en fait pendant tout le film. L'attraction, en fait, le film est vraiment tourné de cette manière-là. L'attraction qu'a le personnage d'Hélène pour le personnage de Candyman, pour une fois, en fait, Bernard Rose voulait pas que ce soit un personnage classique qui hurle, qui etc. C'est un personnage qui, au contraire, a toujours cette espèce de fascination totale pour le personnage qui fait qu'elle s'y abandonne dès qu'elle le croise, en fin de compte. Elle a ce côté pétrifié et en même temps, elle s'abandonne totalement à lui. Ouais. Et moi, c'est un truc qui m'avait toujours marqué. J'étais comme toi, de toute façon, on a parlé un petit peu hors antenne. Tu le disais juste avant, c'est un film que j'ai vu, genre j'avais 8-9 ans. Donc à l'époque, j'avais pas perçu tout le délire derrière. Mais c'est déjà un film qui, à l'époque, m'avait laissé une impression vraiment très, très, très particulière au moment de sa fin.
Il y a une ambiance bizarre.
C'est pas la même époque, c'est pas comme les Freddy, c'est pas comme un truc comme ça. Mais si ça parle, sur certains points de vue, il y a peut-être des thématiques communes, mais ça parle pas. Enfin, le fait est que, je sais pas, il y a toujours eu un truc qui me laissait très attristé quand le film terminait, en fait.
Il y a un jeu d'univers parallèle aussi qui est perçu par l'image, rien qu'avec la métaphore du miroir. Ça laisse, avec...
Comme s'il y avait un autre monde.
Il y avait un autre monde, derrière, elle le démonte pour aller dedans et derrière le mur, enfin...
Il y a tout un truc aussi.
Il y a le
rapport entre fiction et réalité, parce qu'il y a des choses qu'elle pense être dans sa tête ou elle rêve. Il y a des moments où on ne sait pas si nous on est dans la réalité ou la fiction, notamment quand il y a la grosse carrure et l'acteur qui joue Candyman qui est là. Qui a une voix charismatique. Hein. C'est très impressionnant. On a vraiment l'impression que ça sort des ténèbres, ce personnage avec ce manteau et ce crochet, ces abeilles. Enfin, c'est vraiment terrifiant parce qu'il y a tout un mystère autour du fameux Candyman, autour de cette légende urbaine, quelque part, et cette fascination de ce personnage d'Hélène qui, à la fois, essaye de bien faire les choses et elle se laisse emporter par des choses qui la dépassent. Oui, c'est vraiment très perturbant. Puis,
le film Candyman, c'est un film d'horreur assez culte des années 90. Je pense qu'il a terrifié pas mal d'enfants qui sont nés entre les années 80 et 85, comme toi, Henri, par exemple. Et je pense qu'il a aussi créé pas mal de légendes urbaines, ou en tout cas diffusé pas mal de légendes urbaines, puisque moi, je me souviens que quand j'étais petit à l'école, il y avait pas mal de légendes urbaines qui ressemblent à celles que l'on peut voir dans le film. Donc je pense qu'il a contribué à véhiculer pas mal de légendes parmi les petites classes et les enfants qui veulent se faire peur.
Aussi une personne qu'on n'a pas parlé jusqu'ici pour le moment, c'est Philip Glass. On l'a évoqué plusieurs reprises depuis tout à l'heure. On a parlé aussi de... On en avait parlé dans Interstellar. On va d'abord s'écouter une... Enfin, s'écouter, on va d'abord entendre Anaïs nous faire une petite chronique sur sa biographie, bien sûr, de Philip Glass. Donc Anaïs, je te laisse la parole pour nous parler de Philip Glass, le compositeur.
Alors, issu d'une famille juive d'origine russe, Philip Maurice Glass apprend la flûte et le piano dès l'âge de 8 ans. Brillant étudiant, il n'hésite pas à effectuer de multiples petits boulots avant de poursuivre ses études à Paris auprès de Nadia Boulanger. Élève de Ravi Shankar, qui l'initie au raga de la musique traditionnelle indienne, Philippe Glass se passionne pour les mélorythmes nord-africains du Maroc. Cette ouverture culturelle intense lui permet d'appréhender dans ses compositions les différents apports des musiques dites ethniques, notamment dans ses boucles électroniques et avant-gardistes. Parmi toutes ses compositions thématiques et conceptuelles, Einstein on the Beach devient une référence de la musique minimaliste dès sa parution en 1976. Au fil du temps, Philippe Glass collabore avec des artistes issus du rock et de la pop, tels David Bowie, Laurie Anderson, Brian Eno ou Aphex Twin. Sa rencontre avec le bouddhisme le conduit à composer la musique du film Kundun en 1997. Apparaissant comme l'un des compositeurs essentiels du XXe siècle, sa musique couvre un champ qui va de la musique classique à l'expérimentation. Il est l'un des inspirateurs de la world music contemporaine comme de l'électro. Les années 80, plus maximalistes que minimalistes, sont largement occupées par l'expansion de l'œuvre dramatique, d'abord sur des livrets exotiques, mystiques, certains diraient New Age, en 1980. Aujourd'hui, ces productions toujours croissantes comptent une vingtaine d'opéras, 8 symphonies, une quantité impressionnante de musique de chambre. Glass, ambassadeur de la musique savante auprès des musiciens populaires, aura côtoyé et parfois collaboré avec de nombreux artistes à succès. Il aura abordé avec le même appétit l'écriture de musique de films comme Candyman en 1992, Truman Show en 1998, The Hours en 2003 ou Le rêve de Cassandre de Woody Allen. Glass aura dessiné avec plusieurs décennies d'avance les tendances actuelles.
Oui, oui. Il ne faut surtout pas oublier par contre sa BO qui va être phare, qui va être excessivement copiée sur plein de trucs et notamment on en avait parlé avec, avec Interstellar qui est Koyaanis Katsi.
Ouais.
Il a une BO pour un documentaire.
Ouais, c'est un film documentaire.
Qui est BO assez monstrueuse.
Et reprise dans Watchmen.
Je sais plus si c'est dans le film ou juste dans la bande-annonce.
Je crois que c'est dans le film aussi.
Prophecies. Ça doit être peut-être à la fin, ouais.
Ouais. Mais effectivement, pour ce côté minimaliste, on voit un petit peu comment a été influencé aussi également Hans Zimmer, hein, quand on écoute du Philippe Glass. Il faut être accroché aussi un peu avec Philippe Glass aussi, parce que bon, c'est parfois pas des morceaux super joyeux toujours.
Non, et puis c'est pas facile d'accès, quoi.
Et pas facile d'accès, pas facile de... Bon, c'est quelqu'un d'extrêmement respecté dans le milieu, comme aussi pour le public. Hein. Beaucoup moins connu, forcément, que de John Williams. Mais voilà, il est toujours là, Philippe Glass. Et il continue encore, je suis moi-même abonné à sa page Facebook, il publie énormément de choses. Voilà. Bon, ben on va passer avant de découvrir les anecdotes de Paul, on va passer à un second extrait. Donc, il s'agit du titre It Was Always You, Helen, qui se traduit par Ça a toujours été toi, Helen, qui reprend le thème d'Helen, hein, qu'on reprend plusieurs fois dans le film et qui le développe. Donc, on retourne dans le quartier de Cabinny Green où la fureur du Candyman s'abattra à tous ceux qui ne veulent pas croire en sa légende. Thank you. Nous sommes de retour sur Rappel Radio 99.0 FM et DAB+. Dans la note originale, vous venez d'écouter ce second extrait musical du film Candyman composé par Philippe Glass. Et on passe aux anecdotes de Paul. Paul qui n'est pas là avec nous, mais qui nous a envoyé ses anecdotes pour le film Candyman. Donc on te laisse la parole, Paul.
Pour mes anecdotes très effrayantes du jour, j'aimerais commencer d'abord avec une anecdote concernant le costume de Candyman. Puisque son crochet, réalisé en 3D à l'époque, a été extrêmement compliqué à choisir, et selon les scènes, c'était très compliqué de choisir. C'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs versions. Un crochet dit héros, comme on a les hero cars dans les voitures, comme pour les voitures par exemple dans les films. Le héros était rigide, pouvait s'avérer vraiment dangereux dans certaines situations de tournage, tandis qu'il y avait plusieurs crochets cascadeurs, souples, un peu plus inoffensifs. Ils avaient créé des systèmes de fixation afin que un faux moignon qui, dans le, en fait, le cascadeur ou l'acteur pouvait rentrer sa main dans un faux moignon qui permettait de fixer le crochet. Et comme ça, en fonction, le crochet pouvait être ou bien le crochet héros ou bien le crochet cascadeur. Pour une autre anecdote de tournage, finalement, Tony Todd avait négocié, donc l'acteur principal, avait négocié un bonus de $1,000 pour chaque piqueur d'abeille qu'il recevait. Au final, c'est $23,000 qu'il gagnera, puisqu'il recevra 23 piqueurs d'abeilles. Mais cela n'empêche pas de considérer que le rôle de Candyman est son rôle préféré. Pour conclure sur une anecdote assez rigolote, à la base, c'était Eddie Murphy qui avait été pressenti pour le rôle titre. Seulement, il était trop petit. En effet, ce dernier ne fait qu'1m75 contre 1m95 pour Tony Todd. On peut comprendre effectivement que le second acteur ait été choisi parce qu'il en impose bien plus. Bah, la caméra, ça rend forcément beaucoup plus grand. Voilà, j'en ai fini pour mes anecdotes et je laisse la parole à notre cher Henri pour la note originale, finalement.
Merci beaucoup, Paul, pour cette intervention. Oui, tu n'es pas là, mais tu es là. Hein, comme on dirait. Merci beaucoup d'avoir envoyé en différé ces anecdotes. Voilà. Du coup, on passe directement à l'analyse d'Henri pour cette BO de Candyman et sur le travail de Philippe Glass. Voilà. Je t'en prie.
Merci, Paul. Merci, Humberto.
Merci, Polo.
Merci, Polo. Ouais, je te disais que t'allais peut-être, toi, enfin, Annelie, je sais pas si t'as toujours été très fan de films d'horreur, toi ou non.
Oui, j'aime beaucoup.
Bah, du coup, ouais. Ça va peut-être vous parler un petit peu. Ouais. En fait, quand on apprécie les films d'horreur, je l'ai mal dit, mais que l'on soit complètement initié ou non, qu'on soit complètement amateur ou non, disons qu'en gros, pour le spectateur lambda, ça revient à regarder du grand 8. Mm-hmm. En gros, c'est les montagnes russes, c'est un grand 8 émotionnel, l'envie étant de se faire peur pour s'amuser, le genre horrifique ayant, dans les années 80, pris une tournure beaucoup plus gore, plus fun, plus ironique. On regarde de l'horreur pour se marrer, pour s'en prendre plein la tronche et être surpris sans réellement l'être, puisqu'au bout d'un moment, il y a pas mal de gens horrifiques qui reposent sur les mêmes codes, ouais. Quitte à vraiment les perpétuer constamment sans se poser de questions dessus. L'effet immédiat prenant tout doucement le pas sur l'ambiance latente, profonde et progressive, ce qui deviendra même une norme deux décennies plus tard. Les années 90 vont être également une période relativement bâtarde, l'horreur va bientôt se voir radicalement métamorphosée, et elle va plonger à pieds joints, ensanglantée de préférence, dans l'horreur gore et méta, confortable, voire cinéphile. Jusqu'alors, la musique accompagnant l'horreur est au choix full expérimental et brutiste, ou full synthétique et typée années 80, voire synthwave, parfois, avant de passer dans les années 90 à la tonale totale, encore une fois en suivant la marche ouverte par Scream, cette fois-ci avec le compositeur Marco Beltrami. Mmh. Ce que ce constat a l'air de dire, c'est qu'à quelques exceptions, dans les années 80, 90 et post-années 2000, l'horreur est soit devenue juste fun, soit méta, soit méga gore, soit uber trash, comme avec toute la vague du French horror, mais souvent en grand manque d'un vrai gros fond, d'une vraie mise en ambiance, encore une fois progressive et qui perdure. C'est en ce sens qu'un film comme Candyman va s'avérer une véritable anomalie dans le panorama de l'horreur lors de sa sortie, encore plus de par son entité musicale qu'est le score de Philippe Glass. Rarement un film d'horreur n'aura proposé une expérience comme celle-ci, à savoir fascinante, bouleversante, et hypnotisante de par sa brutalité, sa sécheresse et puis son ton vraiment sans concession. Et donc, elle va être également étouffante de par son contexte urbain, de par les racines de son histoire, aussi bien que fascinante de par son étude et son recul sur l'horreur contemporaine, sur l'origine des mythes, qu'absolument traumatisante et marquante de par le chemin de croix, ou plutôt descente aux enfers, plongeant dans un onirisme cauchemardesque du personnage d'Hélène. Si le travail de Bernard Rose, Clive Barker et les interprétations sublimes de Virginia Madsen et Tony Todd ont forcément leur importance dans le brio du film, il est impossible de nier le pouvoir de fascination exercé par le score, de par son essence, sa construction, sa concrétisation, mais aussi son atypisme. On associe l'horreur, comme je le disais juste avant, à une musique sombre, orchestralement ample et massive, atonale et agressive, voire parfois ringarde et cheap, de par un manque de moyens notables, selon les productions, hein, sur certaines prods. Cela dit, c'est sans compter le talent de certains compositeurs ayant livré des fleurons indétrônables du genre, Goldsmith avec La Malédiction ou Poltergeist, les films de Carpenter, Elmer Bernstein ou Carwood Londres, Charles Bernstein avec Freddy 1, Joseph Leducat avec Les Evil Dead, Goblin et Suspiria, Pino Donaggio avec Carrie, Christopher Young, Hellraiser 1 et 2, Raymond Fredini, les Vendredi 13, etc. C'est important en fait, hein, comme mise en contexte, pour que si jamais vous arrivez un peu à vous refaire en tête, si vous connaissez ces BO-là, pour montrer un petit peu le fossé qu'il va y avoir sur le point de vue artistique, en fait, sur le parti pris. Dès lors, comment ne pas être interloqué des plans d'ouverture aériens dans Candyman, filmant de haut une ville labyrinthique et étouffante, accompagnée d'une musique jouée à l'orgue et d'une chorale scandant des onomatopées, le tout en des boucles d'entrée de jeu totalement hypnotiques. Et ça va être une ouverture dont l'austérité sera une véritable note d'intention tonale pour le reste du score et également thématique. Glass va alors constamment jouer sur une sorte de choc sensoriel, ou plutôt une confusion des genres et des sens permanente. Il est intéressant de noter en fait que Philip Glass, bien que connaissant le script, a composé la musique sans ne voir aucune image ni aucune scène, Bernard Rose ayant alors disposé des compositions de Glass selon sa propre vision. Ceci expliquant le choc ressenti par Glass lors de la vision du film pour la première fois, réalisant... Il y a une anecdote qui existe là-dessus qui est très drôle, même si pas cool pour lui. Parce qu'en fait, c'est qu'en voyant le film pour la première fois qu'il a réalisé qu'en fait, il venait de faire la musique d'un film d'horreur. Mm-hmm. Même s'il s'intéressait à certains mécanismes, le genre horrifique au cinéma, puis qui plus est un peu trash dans certains passages, ne l'intéressait pas nécessairement, en fait. Il faut aussi souvenir que, comme tu l'as dit, Philip Glass, c'est un mec qui évolue encore au début des années 90 dans le domaine très intellectuel de la musique contemporaine, qui n'est pas le même monde que le genre un peu plus populaire que l'horreur. Même si c'est un petit peu... réducteur en fait de ne considérer Candyman que comme un film d'horreur un peu lambda, ce qui est loin d'être le cas. Cependant, en fait, l'approche minimaliste de Glass va trancher radicalement avec une certaine tradition de la composition horrifique, justement. Jouant sur une des composantes inhérentes à son style, le compositeur construit alors l'identité mythologique glaçante de Candyman autour de boucles répétitives, se baladant d'octave en octave inlassablement, les fameuses deux premières notes qu'on entend dans le thème introductif, donc sur cette séquence d'autoroute, créant alors une sorte d'inéluctabilité hypnotique autour du personnage et de l'attraction irrésistible, bien qu'effroyable, qu'il provoque vis-à-vis d'Hélène. Faut pas oublier, en fait, comme on en parlait avant, hein, que malgré l'horreur des actes perpétrés par le personnage, il n'en est pas finalement l'auteur premier et gratuit. C'est pas un tueur lambda comme t'as dans beaucoup de films des années 80, mais il est le résultat des actes et de l'appel d'Hélène. C'est elle qui l'appelle, et c'est elle qui provoque en fait cette plongée vers l'horreur. Ainsi, le thème ne joue pas sur l'horreur pure et simple systématiquement, mais comporte une vraie tragédie tonale, mélancolie inéluctable pour le personnage d'Hélène, au travers de Candyman, puisque c'est elle qui le libère et qui le ravive même d'une certaine manière. Cette sensation d'effroi intime et intimiste étant retranscrite par l'utilisation de l'orgue et du cœur. Mais cette mélancolie percera davantage lors de l'apparition du piano, qui va être réservé à Hélène pour son thème à elle, qu'on a entendu très rapidement justement au début avec le morceau que t'as passé, qui est également repris mais cette fois-ci en music box sur le morceau de music box, et qui va, voilà. Donc ça va jouer sur une masse sonore invoquant l'aura mythologique et, du personnage titre, autant que sur l'aura et le destin funeste d'Hélène. Je préviens, je vais gros spoiler dans quelques instants, pas totalement, mais si vous n'avez jamais vu le film, bon, bah tant pis, vous écouterez la fin de la chronique plus tard. Glass ici va créer une pièce intimiste, foudroyante et bouleversante, qui va jouer sans cesse sur le bouleversement émotionnel, et contradictoire des sentiments éprouvés par les spectateurs. Bah oui, moi aussi, je bafouille. Tour à tour terrifiante et pétrifiante, tragique et poignante, le score de Glass déstabilise par son approche et son audace, encore 30 ans après, se présentant comme une vraie anomalie heureuse dans le cinéma d'horreur contemporain. Rappelons également que Glass pensait initialement composer la musique d'un film arty, indépendant, basé sur la nouvelle de Clive Barker, mais la tournure horrifique et plus graphique aurait été imposée en fin de production par Barker et les producteurs, ceci pouvant expliquer du coup l'approche, en tout cas qu'on imagine, différente et assez inattendue de Glass pour le métrage, finalement, quand tu vois. Et donc ça va être complètement à contre-courant du scoring alors en place et à venir finalement, puisque Glass délivre une œuvre émotionnelle hypnotisante, humaine, fataliste, dont le point d'orgue résidera en son sublime et déchirant « It was always you, Helen » qu'on a entendu juste avant, clôturant alors le récit, et où tous les instruments et leitmotivs mis en place progressivement, dont le climax du film, et donc le morceau « Return to Cabrini », se rejoindront. Si les différents leitmotivs et moods du score annoncent avec fatalité le destin d'Helen dès le début du film, chacun s'intensifiant inéluctablement au fil du score, ce tutti élégiaque final ne fera que matérialiser l'idée principale du récit, la passation de l'horreur, de la violence, Helen devenant ce qu'elle étudiait alors, puisqu'elle prend la place du boogeyman assez tragiquement et dans une scène qui est assez traumatisante à la fin du film.
Ouais, totalement. Hein.
Ouais.
Grosso modo, comment glacer le sang tout en émouvant au plus haut point, tout en faisant corps comme jamais musicalement avec le propos intrinsèque du film. Et c'est assez brillant. Et maintenant, qui c'est qui s'en va répéter Helen ou Candyman 5 fois devant un miroir?
Non,
c'est pas nous.
Pas moi.
Je ne serais pas la folle.
Et le pire, c'est que tu vois, il y a un truc qui est très intéressant et qui marche très très bien avec le film, encore une fois. Et c'est un des trucs assez brillants. Je sais pas si ça marche pareil quand tu lis la nouvelle ou non. Mais c'est que ça paraît con, hein, parce que je pense pas être nécessairement quelqu'un de superstitieux ou etc. Mais je le ferai pas.
Ouais.
Non, c'est
marrant. Ça marche le truc. Tu le fais pas.
C'est un truc qui fait pas. Enfin, ouais, voilà. Mais il y a un truc comme ça qui existait déjà, je crois, avec Bloody Mary. Enfin, c'est
ça,
légende.
Voilà. En fait, ça s'inspire de ça.
Mais c'est trippant parce qu'au début, en effet, il se passe rien, il est pas là. Mais c'est bien plus tard qu'il va commencer à le hanter et à lui faire faire des trucs trippants, quoi.
C'est dans le garage.
Ouais.
En plus, ce qui est intéressant, c'est que l'apparition, en fait, ce que je trouve très intéressant, encore une fois, dans ce contexte. C'est que la première apparition du personnage de Candyman n'est pas quelque chose de tonitruant, c'est pas quelque chose de nocturne,
ouais,
c'est
non,
pas en mode jumpscare.
En plein jour,
C'est en plein jour dans un garage. Bon.
Mais c'est quand même ouvert, c'est pas isolé, oui. Cloîtré de béton.
Et
tu
il est juste au loin.
C'est...
Mais ouais. Effectivement, malgré tout, en fait, il en impose déjà de loin. Et t'as pas besoin d'avoir une explication.
C'est
tu
ça.
Sais que c'est lui.
Et même, tu exactement, vois, ce qui est super angoissant, c'est comme cette scène que tu dis. Tu vois Helen qui bouge pas, mais moi je sais.
Mais elle est comme hypnotisée face à un vampire, en fait. Elle est possédée.
Mais je sais, mais tu vois, vu que c'est la première vraiment scène où tu le vois qui commence à prendre de l'emprise sur elle, tu le connais, tu captes pas encore directement ça. Et donc,
c'est là qu'elle commence à reconnaître qu'elle a fait une merde, en fait.
Ouais. Et le premier, c'est ça. Et le premier instant que je me suis dit, et bouge, prends ta voiture, casse-toi. Mais tu vois, mais bon, c'est pas possible.
T'as dit un terme hyper intéressant qui renvoie à quelque chose qui s'est réellement passé durant le tournage, en fait. Comme Bernard Rose, je le disais juste avant, ne voulait pas que ce soit une héroïne classique de film d'horreur lambda, c'est-à-dire la nana qui gueule, un peu bimbo et machin.
Ouais.
En sachant qu'il change également. Dans le roman, apparemment, c'est vraiment une jeune bimbo, physiquement.
Ouais.
Là, il voulait un personnage qui soit... une femme qui a dépassé la trentaine, qui soit posée, qui ait une cohérence en fait avec le fait que ça soit une thèseuse. Non, c'est pas
une étudiante,
ça,
une étudiante qui fait
sa thèse, une journaliste plus ou moins déjà à l'avance.
C'est ça, ouais.
Et comme Virginia Madsen en fait était très très intéressée en fait par ce parti pris, ils avaient été chez un hypnotiseur. Qui l'avait hypnotisé, qui avait donné un mot en fait déclic qui faisait que au moment où en fait Bernard Rose allait sortir ce terme-là, elle allait repartir en transe, ce qui fait qu'à certains moments que l'on voit dans le film, ce sont des moments où elle est réellement en transe.
Et ben.
Et sauf qu'à un moment donné, elle a plus voulu parce qu'à un moment donné, quand en fait ils ont relancé le truc, elle a dit bon bah allez, quand est-ce qu'on démarre? Et elle lui dit bah en fait tu rigoles, on vient de finir la journée là. Et en fait elle se souvenait de rien du tout de la journée. Et là par contre ça l'a gavé et fait flipper, et du coup ils n'ont jamais plus réutilisé le truc. Mais il y a plusieurs plans du film donc où l'expression que tu vois, c'est pas uniquement qu'elle joue très bien, c'est qu'en fait à ce moment-là elle est vraiment en transe, elle est vraiment autre part en fait.
Ouais, hypnotisée.
Et ça joue très très
c'est
bien
fou.
Sur le film.
Ouais. Puis le Candyman, hein, c'est un film qui effectivement ne joue pas avec les standards classiques du film d'horreur, et tant mieux. Enfin, ceux qui aiment en fait être angoissés par un film vont adorer. Ceux qui souhaitent être effrayés tout le temps à chaque seconde d'un film vont être déçus, je pense. Donc c'est très intéressant. Puis c'était une très belle émission à faire. Merci et merci à vous deux pour vos chroniques. Merci à Paul pour ses anecdotes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, bien sûr. Et vous pouvez retrouver cette émission si vous l'écoutez déjà pas sur les réseaux sociaux, sur toutes nos plateformes, hein, Mixcloud, encore. voilà, il y en a plein, Spotify, tout ça, etc. etc. Et puis, ben, nous, tout simplement, pour notre slogan de la fin, surtout,
et surtout n'oubliez pas d'écouter des filles.
Et ne répétez pas 5 fois Candyman.
Voilà, surtout, et répétez surtout. Pas 5 fois Candyman devant un miroir.
Surtout, ne répétez pas 5 fois la note originale, on n'apparaîtra pas dans votre salon.
Voilà, ça, vous pouvez le faire. Pourquoi vous pouvez écouter 5 fois d'affilée.
Il vous arrivera.
Voilà, on ira boire un verre ensemble, voilà.
C'est ça.
C'est ça ce qui se produira. Voilà, une bonne journée à tous.
Salut.
Au revoir.